Des poches sous les yeux, l'interview, en partenariat avec la boîte à livres.
Martin Vinclair, bonjour, et je suis ravie de vous recevoir à l'occasion de votre venue à la boîte à livres. Alors, pour une double actualité, parce que vous ne faites jamais les choses à moitié. Alors, à la fois la sortie en poche de En souvenir d'André, qui est paru en 2012 chez POL et qui ressort là chez Folio. Et également le livre Dr House, l'esprit du chaman, qui sort lui aux éditions Boréal, qui est une édition, c'est une bonne édition québécoise. Puisque vous avez, vous vivez maintenant...
Je viens à Montréal. Oui. En fait, c'est une triple actualité, puisque en même temps qu'En souvenir d'André chez Folio, ils reprennent La Vacation, qui est mon premier roman. Et ça fait que j'ai publié exactement il y a 25 ans, ce mois-ci.
On va commencer par En souvenir d'André, si vous voulez bien. Et puis de toute façon, comme vous êtes un écrivain cohérent, on va voir qu'il y a forcément des ponts, des échos entre vos ouvrages. Alors En souvenir d'André, c'est donc un roman dans la veine des romans médicaux. Alors comme vous venez de nous dire que vous écrivez depuis 25 ans, il y a eu La Vacation, il y a eu La Maladie de Saxe, Sauver trois médecins, Le cœur des femmes, etc. Et donc En souvenir d'André est plutôt dans la veine de ces romans-là. Avec un sujet, alors que vous aviez déjà abordé auparavant de façon distillée, on va dire, et qui est là le cœur de votre ouvrage, En souvenir d'André, qui est donc l'euthanasie.
Le suicide assisté, plus exactement, ou l'aide médicale à mourir, plutôt que l'euthanasie, parce que là il s'agit de gens qui décident de mourir. Ce n'est pas les médecins qui décident pour eux, c'est les gens qui veulent en finir avec la vie de façon... digne et douce, et donc il demande à quelqu'un, qui est le personnage principal, de les aider à le faire.
Alors donc ce personnage principal, qui est donc un médecin, et qui est le narrateur aussi du récit, comment en arrive-t-il à être confronté à cette question ?
Mais il en arrive à ça très simplement, il a horreur de la douleur, il devient spécialiste du traitement de la douleur, et puis il se rend compte que même quand on a soulagé la douleur... de façon très efficace, parce que c'est quelqu'un de très efficace, de très soigneux, même quand on a soulagé la douleur de manière très efficace, il y a des gens qui quand même veulent terminer leur vie, soit parce qu'ils ne veulent pas continuer à se dégrader, soit parce que leur vie leur est intolérable pour des raisons qui sont des raisons essentiellement morales, qui n'ont rien à voir avec qui ont peut-être à voir avec une maladie, mais qui ne sont pas seulement liées à ça. Soit tout simplement parce qu'ils ne veulent plus vivre, c'est-à-dire on peut vouloir mourir parce qu'on ne veut plus vivre. Et donc, de temps en temps, ça commence par un patient qui lui a une maladie terminale qui va l'entraîner dans la déchéance de manière inexorable et qui écrit qui remplit des cahiers, et le jour où il ne peut plus remplir ses cahiers, il décide qu'il veut en finir. Alors il appelle Emmanuel, le personnage principal. Mais au moment où Emmanuel accepte de l'aider, mais au moment où il va partir, où il va lui-même, où le patient qui s'appelle André va lui-même appuyer sur le bouton qui va lui injecter les barbituriques qui vont le faire mourir, il hésite parce qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas encore dit. Et en fait, il demande à Emmanuel de poursuivre l'histoire qu'il a commencé à écrire dans ses carnets, de l'écrire pour lui. Donc il lui dicte son histoire, il lui raconte son histoire. Et Emmanuel, qui a une mémoire des mots extrêmement développée, écrit sous la dictée. Et puis, quand André a fini, André décide d'en finir. Et par la suite, justement, En souvenir d'André, il y a d'autres personnes qui font appel à lui. Et Emmanuel aussi, à nouveau, recueille leurs dernières paroles ou leurs dernières histoires. Et les consignes. Donc en fait, c'est pas seulement un livre sur la liberté de décider de sa fin, c'est aussi un livre sur qu'est-ce que nous laissons quand nous nous en allons.
C'est un livre, en fait, sur la parole, le récit, les histoires.
Voilà, c'est un livre sur la parole, les récits, les histoires, qui sont les seules choses qui restent, finalement, et que nous pouvons transmettre sans aucun artifice. Il suffit de raconter une histoire pour qu'elle soit transmise, c'est ça qui est merveilleux.
Alors, votre livre, en plus d'être un roman, a des résonances sociales, politiques, puisque effectivement il aborde le sujet de la fin de vie. Alors, vous êtes écrivain et médecin. Quel regard vous portez sur la situation par rapport à cette question en France, alors même si vous vivez maintenant au Québec? Et est-ce que, à votre avis, vos romans peuvent servir à faire avancer les choses?
Comment dire? Je suis pas assez vaniteux pour penser que mes romans peuvent faire avancer les choses. Ce que j'espère seulement, c'est que mes romans, celui-là ou d'autres, enfin comme Le cœur des femmes, dont je sais qu'il a eu beaucoup de lectrices et de lecteurs et qu'il a eu un impact sur beaucoup de gens. J'espère qu'ils apportent un soutien. Un éclairage qui permet à des gens qui ont déjà des intuitions de se dire oui, ben finalement ce que je pense c'est pas complètement stupide ou c'est pas complètement anormal ou c'est pas complètement ou c'est pas immoral ou c'est pas bon. Je crois que ce qui fait changer les choses c'est l'ensemble de la population, l'ensemble du corps social, l'ensemble des idées. C'est un mouvement qui peut prendre du temps mais et que chacun contribue à le faire, donc je le fais à ma manière. En ce qui concerne le suicide assisté, je pense qu'en France, contrairement à d'autres pays, il n'y a qu'à aller en Belgique, hein, c'est juste à côté, on a un obstacle énorme à ce type de problème. Pour moi, la question de l'euthanasie, c'est comme la question de l'avortement ou comme la question de la stérilisation volontaire. C'est une question de liberté. Si une personne est réputée être libre de décider pour elle-même, elle doit pouvoir... chacun de nous, quand il est majeur, est libre de décider de... comment dire, même quand on n'est pas majeur, par exemple, d'avoir un enfant. Une femme qui désire être enceinte avant d'être majeure, on ne va pas l'obliger à avorter. À l'inverse, une femme qui ne veut pas être enceinte, bah, elle est libre d'interrompre sa grossesse. Et je trouve extrêmement paradoxal qu'on dise que, par exemple, un patient qui a une maladie grave doit être respecté dans ses choix thérapeutiques, mais il ne peut pas être respecté s'il dit, par exemple, « je ne veux pas être traité » ou « je désire en finir ». Je vois pas au nom de quoi. Enfin, je veux dire, ou bien le choix est libre et à ce moment-là, on doit pouvoir admettre que des choix que les autres ne feraient pas soient acceptables, ou bien alors on n'est pas libre. Et il y a un double discours en France qui tient à la résistance des médecins qui sont quand même beaucoup, très nombreux, pas tous, mais enfin très très nombreux à être dans une sorte de sentiment de contrôle et de toute puissance, qui est que finalement un patient, à partir du moment où c'est un patient, où il est malade, il perd toute autonomie. Alors, encore une fois, c'est la question de la liberté. Personnellement, ma position, c'est que, en tant que médecin et en tant que citoyen, je ne veux pas qu'un médecin décide de ma liberté à ma place. Et en tant que médecin, je ne veux pas décider de la liberté des autres à leur place. Et mon rôle, c'est de donner aux gens qui se confient à moi le plus d'outils, le plus d'armes pour qu'ils prennent des décisions libres et éclairées. Ça ne rend pas forcément les choses faciles, mais il y a une chose qui compliquerait les choses, enfin qui compliquerait leurs décisions de manière considérable, c'est si je me mêlais de leur dire ce que j'en pense. Bon, voilà, alors ça c'est ma position. Après il y a des obstacles sociaux, il y a des obstacles politiques. Mais par exemple, les obstacles politiques, au Québec, il y a un projet de loi qui tend à réglementer la fin de vie dans le sens d'une dépénalisation du suicide assisté, d'un refus de l'acharnement thérapeutique, etc., dans le cadre de la loi, qui est tellement consensuel que tous les partis étaient d'accord. Parce qu'ils considèrent que ce n'est pas un problème politique, que c'est un problème de choix individuel. En France, le choix individuel, c'est encore soumis et sujet à une suspicion et une série de jugements qui font que non, un citoyen ne peut pas choisir pour lui. Et je prends un autre exemple qui n'est pas celui de l'euthanasie, c'est le problème, encore une fois, de la stérilisation volontaire. La loi autorise toute personne à subir une intervention qui la rend stérile, c'est-à-dire soit une vasectomie, soit une ligature de trompe ou une pose d'implant Essure, à l'âge de 18 ans, après 4 mois de délai de réflexion, et on continue à dire à des gens qui le demandent, qu'ils aient ou des enfants ou non, que non, c'est pas possible. Les médecins continuent à leur dire que non, c'est pas possible, mais c'est inadmissible. Mais d'un autre côté, ils continuent aussi à dire à des femmes de 35 ans qui n'ont pas d'enfants, ah ben, il serait temps que vous en ayez. Mais de quoi je me mêle ? Vous voyez, c'est ça. Ce qui, moi, me pose problème, c'est cet abus de pouvoir cet exercice de pouvoir, cette relation de pouvoir que beaucoup de médecins, pas tous encore, je le répète, que ceux qui ne les ont pas ne se sentent pas visés, mais que beaucoup de médecins exercent vis-à-vis de leurs patients, parce qu'ils pensent qu'ils savent mieux que les patients ce qui est bon pour eux.
Vous nous avez expliqué qu'il semble y avoir un certain blocage des médecins par rapport à la question de la fin de vie. Ce que montre votre roman aussi, c'est qu'on retrouve un peu ce même blocage par rapport à la thématique de la douleur, qui est finalement peut-être encore plus que la mort, le thème central de votre roman.
Oui, parce que c'est parce que les gens souffrent qu'ils ne veulent plus vivre, qu'ils souffrent de façon irrémédiable ou qu'ils vivent quelque chose qui de toute façon ne pourra pas cesser de les faire souffrir, par exemple de se sentir plongé dans la déchéance sans possibilité aucune d'en sortir, comme par exemple dans des maladies comme la sclérose latérale amyotrophique, qui est une maladie qui entraîne une paralysie progressive. Enfin, il y a des maladies comme ça qui sont terribles, il y a des cancers bien entendu, il y a des choses dans lesquelles la déchéance est irrémédiable. Alors ça provoque pas forcément une douleur physique, mais ça peut provoquer une douleur morale extrêmement intense, que les antidépresseurs et que plein de choses ne peuvent pas atténuer. Et on peut parfaitement admettre, enfin je crois qu'on devrait pouvoir admettre, que quelqu'un qui est dans cette situation puisse décider de poser comme dernier geste d'individu autonome, de finir sa vie quand il le peut encore. Mais c'est vrai que la question de la douleur au sens large, c'est une question qui a rencontré une grande résistance de la part des médecins. Je me souviens que dans les années 80, je faisais partie d'une équipe à la revue Prescrire qui a été la première à publier des articles sur le traitement de la douleur chez le cancéreux en France. On a adapté des articles qui venaient d'Angleterre, on ne les a pas inventés, mais ça n'avait jamais été fait dans une revue médicale française. Parce qu'en France, on semblait penser que quand les gens souffrent, soit ils exagèrent, soit après tout c'est normal, ils n'ont qu'à souffrir, c'est pas intéressant. On ne sauve pas souvent des gens, voire même c'est très rare. Enfin, je ne suis même pas sûr, moi, d'avoir sauvé qui que ce soit. En revanche, on peut toujours consoler, on peut toujours assister, on peut toujours soulager. En tout cas, tenter de soulager, on peut toujours écouter, on peut toujours accompagner, on peut toujours soutenir, etc. Et c'est ça, le travail d'un soignant. C'est pas de sauver. Parce que si c'est ça, si c'est sauver, on ne veut pas sauver grand monde. En revanche, soulager la souffrance morale ou soulager la souffrance physique, là, il y a du boulot. En France, on n'a pas encore bien intégré cette idée dans le monde médical, que la première chose à faire, c'est de soulager la personne qui vient. Et le personnage de En souvenir d'André, il est dans cette problématique. Il veut d'abord soulager les gens. Mais il sait aussi qu'on ne peut pas soulager tout le monde et qu'il y a des gens qui, même s'ils ne souffrent pas, ou bien même si on fait tous les efforts possibles, on ne peut pas les empêcher de souffrir. Et le seul moyen pour eux de cesser de souffrir, c'est de mourir.
Et alors justement, par rapport à la douleur, donc pour faire le lien avec Dr House, l'esprit du chaman, est-ce que finalement Dr House n'est pas un si bon médecin parce qu'il éprouve lui-même la douleur ?
Dr House, vous vous rappelez que c'est un personnage, c'est pas un vrai médecin. Et moi j'insiste beaucoup, et j'adore Dr House, hein, je trouve que c'est une série sublime, et je voudrais, mon rêve c'est de faire un enseignement de l'éthique médicale aux étudiants en médecine, en 10 séances de 3 heures, au cours desquelles je présenterai d'abord un épisode de Dr House, et ensuite il y aurait une discussion sur qu'est-ce que c'est que les principes de l'éthique. Mais je pense qu'effectivement, ce que le personnage représente, c'est aussi le fait... Moi, j'adore ce personnage parce que ce personnage incarne toute l'humanité soignante et souffrante en une seule personne. C'est-à-dire qu'il est à la fois le patient et le soignant. Donc ce qui, moi, m'intéresse, c'est qu'effectivement... Et House, d'autre part, est un personnage qui est écorché vif sur le plan moral. C'est pour ça qu'il essaye d'éviter de se lier au patient, parce qu'il sait que s'il se lie émotionnellement au patient, il ne peut plus penser de manière rationnelle. S'attacher, pour un soignant, s'attacher à un patient, avoir des relations émotionnelles avec un patient, c'est compliqué, parce qu'on est parasité par les émotions. Alors il y a des gens qui disent il faut refuser nos émotions, il y en a d'autres qui disent non, il faut que les émotions elles existent, mais il faut en prendre conscience pour savoir comment elles nous parasitent et quand même les soigner, parce qu'autrement on risque de faire des bêtises. Donc apprendre à la fois à vivre les émotions et à avoir une certaine distance par rapport à ça. Et ça s'apprend, c'est pas impossible. C'est d'ailleurs une des premières choses qu'on apprend dans la série Urgence, et que Green dit à Carter, il lui dit tu as des émotions parce que tu es un être humain et tu peux faire deux choses. Soit tu décides de ne plus en avoir et tu vas devenir un robot, soit tu décides de continuer à en avoir. Il faut savoir que de temps en temps, tu vas avoir envie de vomir. Mais tu le sais. Puis tu travailleras quand même. Alors House, c'est un bon médecin à mon avis, parce que, enfin, c'est une bonne figure de médecin. C'est pas tellement parce qu'il est quelqu'un qui souffre, c'est aussi parce que son objectif, c'est de faire ce qui est juste, et de faire ce qui est juste pour le patient. Et ce qui est juste pour le patient, c'est de découvrir la vérité, donc de pouvoir faire le diagnostic, afin que le patient puisse décider de se soigner et choisir le traitement qu'on lui propose. Donc c'est un beau personnage, parce que il exprime, il métaphorise la complexité que c'est d'être un soignant.
C'est la même complexité, le même respect que l'on retrouve en Souvenir d'André, finalement. C'est le personnage du narrateur médecin qui, par rapport à ces gens qui expriment l'envie de mourir, se pose des questions au début.
C'est-à-dire, il les respecte déjà, mais c'est surtout qu'il se refuse à porter un jugement. Et donc, sa logique est la suivante. Accompagner quelqu'un, quelle que soit sa demande, c'est un acte de soin. Pour lui, accompagner quelqu'un et l'aider à mourir sans violence, c'est un acte de soin. Alors ça peut paraître paradoxal, mais au fond, c'est pas l'issue de l'accompagnement qui est un acte de soin, c'est pas la mort elle-même, c'est tout ce qu'on fait avant, c'est le fait de rassurer, le fait de faire cesser la douleur, le fait de permettre au patient de choisir un traitement non violent qui lui permettra de mettre fin à sa vie. Ça, c'est un acte de soin. Le résultat, c'est bien entendu la mort. Mais c'est confondre le résultat, qui est ce que le patient désire, avec l'action du médecin. L'action du médecin, c'est pas de tuer, là, en l'occurrence. L'action du médecin, c'est de permettre à la personne de mettre fin à sa vie. Et c'est une nuance fondamentale, parce que tant qu'on pense que c'est le médecin qui tue, on est effectivement non seulement dans une problématique très angoissante pour tout le monde, mais on est aussi dans un fantasme. C'est-à-dire qu'on imagine que le médecin est suffisamment puissant pour tuer. Ce qui, moi, me paraît scandaleux dans cette question, et que les lois devraient résoudre, c'est la chose suivante. C'est comme l'avortement. Quand l'avortement était illégal, les femmes riches pouvaient toujours obtenir un avortement auprès d'un médecin qui était un ami de leur mari ou de leur père ou de n'importe quoi, ou voire par de l'argent, elles pouvaient obtenir un avortement propre qui leur permettait d'interrompre leur grossesse sans être menacées. Les femmes pauvres, elles, en étaient réduites à des méthodes qui les menaçaient de mourir ou de rester mutilées. L'euthanasie, c'est exactement la même chose. Quand Vincent Humbert a écrit au président de la République en disant « Je veux pouvoir mourir, je suis tétraplégique, je veux pouvoir mourir », le ministre de la Santé de l'époque, qui était Mattei, je crois, avait été interpellé par un journaliste qui lui avait dit « Oui, mais la mère de Lionel Jospin, Mireille Jospin, a mis fin à ses jours, elle a même annoncé dans le journal, et c'était explicite qu'elle avait décidé de mettre fin à ses jours, elle avait 90 ans, et elle l'avait fait, comment l'avait-elle fait ? Probablement avec l'aide d'un médecin qui avait dû lui prescrire des barbituriques. » Mais Vincent Humbert, alors Mattei dit oui, mais le suicide est une liberté. Il dit d'accord, mais Vincent Humbert, si sa liberté c'est de mettre fin à ses jours, comment est-ce qu'on l'aide à exercer sa liberté ? Ben, on ne peut l'aider que si quelqu'un est autorisé à lui injecter un produit qu'il aura choisi au moment qu'il aura choisi. S'il ne l'est pas autorisé, ça veut dire qu'il y a une inégalité de classe.
Comme vous le montrez dans Souvenir d'André, où finalement tous les gens qui accèdent à ce suicide assisté sont des gens, alors soit du milieu médical, enfin d'ailleurs pour la plupart du milieu médical, donc qui ont accès à un réseau en fait de gens qui peuvent les y aider.
Oui, tout à fait. Et le discours, c'est que précisément ceux qui l'aident, c'est ceux qui n'ont pas la possibilité de se faire aider, qui ne sont pas des hommes, des soignants puissants justement. C'est ceux qui sont amené à lui demander à lui, qui est aussi le plus humble des soignants. Parce que les grands patrons, eux, ils n'ont pas de problème à trouver quelqu'un autour d'eux. Mais c'est pour ça que j'ai fait de tous les personnages des membres du milieu soignant, pour montrer que face à cette situation, il y a une inégalité même parmi les soignants. Qu'il y ait leur statut. Mais il n'est pas, dans un pays dit démocratique, il n'est pas acceptable que la liberté de choisir sa fin de vie soit accessible aux plus riches et pas aux autres. Ou ceux qui ont le plus grand statut, mais pas aux autres. C'est pas acceptable. C'est un déni de... Encore une fois, c'est comme l'avortement, c'est un déni de la soi-disant égalité qu'on doit à tous les citoyens.
Et alors, pourquoi avoir choisi la forme romanesque pour aborder un sujet tel que celui-là? Vous auriez pu écrire un essai théorique. Alors, est-ce que c'est cet amour des histoires, en fait, que l'on retrouve dans Souvenir d'André, mais également dans votre livre sur House, où vous expliquez que c'est un formidable réservoir narratif, en fait? Donc, pourquoi ce choix romanesque?
D'abord parce que je préfère écrire des fictions, ça c'est sûr. Ensuite parce que j'écrivais pas seulement un pamphlet ou un livre engagé consacré seulement au suicide assisté. Pour moi, il y avait autre chose. Il y avait aussi justement la question de la transmission des histoires. Et j'ai mêlé plusieurs choses. J'ai mêlé aussi, je voulais aussi raconter une histoire d'amour. Il y avait beaucoup de choses que je voulais raconter. Et je ne pouvais pas le faire dans le cadre d'un essai parce que ça s'y prêtait pas. Et d'autre part parce que, j'espère qu'un jour mes idées ou mes convictions par rapport au suicide assisté feront partie de quelque chose d'historique parce qu'il y aura une législation qui rendra ça une réalité, mais que le roman continuera à avoir une valeur en tant qu'objet narratif, qu'objet littéraire, même si on parle de... Je veux dire, quand par exemple Victor Hugo écrit Les derniers jours d'un condamné pour parler de la peine de mort et condamner à la peine de mort, bon, la peine de mort n'existe plus, mais le livre, il reste d'actualité, il reste extrêmement poignant. Quand quelqu'un écrit un roman sur la guerre, ça reste extrêmement poignant. Donc pour moi, c'est important de faire passer des émotions par le roman et de les faire passer sous une forme, comment dirais-je, qui ne soit pas purement idéologique. Et pour moi, les romans, c'est la meilleure manière de faire passer des idées et des émotions, et puis au lecteur de décider si les idées lui conviennent ou pas.
Un autre point commun entre les deux ouvrages, dans Souvenir d'André, en fait, les gens lui livrent une parole avant de mourir, des récits qu'il collecte. Et dans House, on a une espèce de passage de témoin entre donc House et Wilson. Et finalement, est-ce que toute votre œuvre littéraire, théorique, n'est pas finalement un hommage à la transmission?
Oui, on peut dire ça. C'est un fort désir de transmission, sûrement un hommage à transmission. Oui, parce que j'arrête pas de remercier les gens qui m'ont transmis quelque chose et j'aimerais... J'aimerais être sûr que je transmets quelque chose d'utile. Donc oui, je pense que c'est très important de transmettre, parce que c'est ça, c'est ce que dit le personnage dans Souvenir d'André. C'est enfin ce que je lui fais dire, puisque ça n'est qu'un personnage. C'est nous n'avons que les histoires, hein, l'histoire qui nous aide à vivre et qui nous prépare à mourir. Mais les histoires, ça nous fait vivre tout le temps. Hein, on est tout le temps dans les histoires, des histoires qu'on croit vraies, des histoires qu'on sait fausses, etc. C'est ce qui nous nourrit le cerveau. Moi je suis content de fabriquer des histoires. Simplement, je pense que aucune histoire ne peut être qualifiée ou soupçonnée d'être futile. Chacun trouve quelque chose dans des histoires différentes. Pendant longtemps, j'ai cru qu'il y avait des littératures plus importantes que les autres. Et puis maintenant, je pense que non. La littérature ou les narrations ont toutes de la valeur, puisque s'il y a des gens pour les lire ou pour les écouter, c'est que ces gens-là trouvent que ça a de la valeur pour eux. Donc je me refuse à porter un jugement sur tel ou tel récit. Même les écrivains dont je n'aime pas la personnalité, par exemple, j'aime pas leur personnalité, mais je peux pas dire que leurs livres sont mauvais. Si leurs livres sont lus, c'est qu'ils apportent quelque chose à quelqu'un. Donc, qui peut dire qu'ils sont mauvais ou bons d'ailleurs? C'est pas une question d'être bon ou mauvais. Ils apportent quelque chose à quelqu'un.
Merci beaucoup, Martin Vinclair, et à bientôt.
Merci, Mélanie, à bientôt.
C'était l'interview des Poches sous les yeux en partenariat avec la boîte à livres. Retrouvez cette interview sur radiobeton.com, despochessousleyeux.fr ou encore la page Facebook des Poches sous les yeux.